Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Pour terminer cette année radiophonique, nous vous proposons une petite incursion dans ce qui nous est proposé pour nous réjouir le cœur, l'âme et le paysage. Du pain, c'était la semaine dernière, et des jeux, c'est ce matin. Laissez-moi deviner, Rémi Coulet, vous n'êtes pas sportif.
Il m'arrive de faire du vélo, mais le sport n'est pas une de mes activités favorites. Non, loin de là, loin s'en faut.
Et c'est pour ça que vous vous opposez si farouchement et depuis maintenant des années à un projet dans votre belle région, du côté de Vézenobre, pas très loin d'Alès, entre Alès et Anduze.
Non, c'est pas... Bon, si tant est que l'on puisse considérer que le golf est véritablement un sport, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident pour moi, mais bon. Non, c'est pas dans un esprit antisportif, ça concerne effectivement plutôt des problèmes de bien commun, on va dire, hein. Et puis, donc, tout ce qui concerne aussi l'aspect urbanisme qui est lié au projet.
Alors, ce projet, vous allez nous le décrire. Moi, j'ai regardé la documentation officielle, magnifique, hein. Vraiment, ouais. C'est du développement durable. Le mot éco revient à pratiquement toutes les deux lignes. Il y a un éco-hameau, un éco-golf, un éco-centre équestre, un éco-site. Formidable.
C'est absolument fantastique. Hein. Bon, il faut dire que là, on est sur la seconde version du projet. Et l'agglo, auparavant, c'était la communauté d'agglomération du Grand Alès, avait tenté de vendre son projet en le faisant passer pour le poumon vert de la commune. On allait créer le poumon vert sur une zone naturelle et agricole. Effectivement, il fallait oser, hein. Mais l'agglo l'a fait. Et puis maintenant, dans la deuxième version, donc, puisque la première n'a pas résisté à l'enquête publique, hein, et à l'avis des commissaires enquêteurs, donc ils ont émis un avis défavorable au printemps 2013 à la première enquête. Maintenant, donc, dans cette nouvelle version du projet, effectivement, on est béat d'admiration devant l'effort de verdissement qui a été fait, d'éco-blanchiment ou de verdissement qui a été fait, puisqu'il est question, effectivement, le préfixe éco revient devant chacune des infrastructures prévues au projet. Il n'y a que de l'écologie, c'est vrai.
Que de l'écologie, mais beaucoup de choses autour.
Eh ben, disons que il y a déjà un superbe parcours de golf 18 trous, un éco-golf, hein, il faut reconnaître.
Qu'est-ce que c'est qu'un éco-golf, Rémi Coulet? Aidez-nous.
Ben, je crois pas que là ça ait beaucoup varié, parce que dans la première version du projet, il était question d'un golf avec un gazon particulier qui consommerait très peu d'eau. Bon, il suffisait de environ 250 000 mètres cubes à l'année pour l'arroser. Bon, il y avait un petit golf de 9 trous à côté qui était prévu quand même dans la première version.
Là, 18 plus 9.
Voilà, 18 plus 9, c'était dans la première version. Donc là, maintenant, l'agglo a, sous la pression évidemment de l'avis de la commission d'enquête, a rectifié le tir. Le projet de golf 9 trous n'est pas carrément abandonné. Il a été différé, hein. Officiellement, dans les délibérations prises, il a été différé. Ou plutôt à la réception du 18 trous. Et donc maintenant, pour le 18 trous, à vrai dire, rien n'a changé par rapport à la première fois. Il s'agit toujours de faire un golf avec des gazons qui ont besoin de très peu d'eau. Et donc, il n'est prévu qu'un modeste bassin de 250 000 m3 pour l'irriguer, cette fois-ci, sur 3,5 hectares, donc 7 mètres de profondeur, pas plus.
C'est rien du tout, 250 000 m3.
250 000 mètres cubes, j'ai du mal à me représenter ce que ça fait, mais par contre, 3,5 hectares sur 7 mètres de hauteur, c'est-à-dire la hauteur d'une maison à étage, là, ça me donne quand même quelque chose de plus précis. J'ai calculé que ça faisait à peu près 400 maisons côte à côte, dans un trou. Voilà.
Mais vous avez calculé aussi que ça représente la consommation en eau d'une ville de 4000 habitants, c'est ça?
Ouais, sans doute un peu plus même, oui. Peut-être plus de 5000, oui. On est plutôt dans ces eaux-là. Mais bon, l'écologie se niche encore là dans le projet Verdi, hein, parce qu'il y a quand même un cinquième de ces 250 000 m3 qui vont être réservés aux agriculteurs.
Car il y a effectivement une volonté très forte et très affirmée de préserver et de maintenir l'agriculture, et même d'aider des jeunes agriculteurs à s'installer, Rémi Coulet.
Bon, je ne sais pas si ça va aller jusque-là quand même. Hein. Bon, il est prévu de
153 hectares.
Il est prévu de conserver quelques îlots agricoles temporaires. Hein. C'est ce qui est apparu dans les conventions qui ont été signées entre l'agglo et la Chambre d'agriculture. Des conventions qui ont une validité de 3 ans, une durée de 3 ans. Et donc, il est spécifiquement, explicitement mentionné le maintien d'îlots de façon temporaire, évidemment, le temps qu'on fasse des petits aménagements indispensables. Et puis, ces îlots, évidemment, seront grignotés à leur tour par l'urbanisation qui sera développée. Et l'aglo prévoit effectivement de créer ou maintenir 3 emplois agricoles sur la zone. Remarquable.
Vous parlez de l'urbanisation, parce qu'effectivement, autour de ce poumon vert, on va installer beaucoup de maisons. Et là aussi, c'est formidable, parce que la réflexion, elle est totalement dédiée au loisir, au plaisir, au confort, à la bienveillance aussi, puisqu'il y a toute une partie qui est prévue pour les seniors. Donc la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas, puisqu'on ne l'a pas nommée, mais c'est d'elle qu'il s'agit, dans ce projet, qui n'est pas un projet de la commune, mais un projet de la communauté de communes, de l'agglo, d'Alès à Agglo. Donc dans ce projet-là, on installerait les seniors, comme on les appelle si joliment, à proximité du golfe. Et vous n'avez pas encore parlé du centre équestre.
Alors, effectivement, il y a une grosse partie d'urbanisme qui est prévue, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça a même été, il faut le reconnaître, sérieusement réduit par rapport au projet initial, puisqu'on avait pratiquement 100 hectares qui étaient prévus à l'urbanisation dans la première version du projet. Là, il faut quand même faire de l'urbanisme. La raison est simple, elle est connue dans tous les grands projets. Et ici encore plus, lorsque l'on sait l'investissement que représente l'infrastructure golfique, il faut pouvoir payer cette infrastructure golfique parce que c'est pas les golfeurs qui vont la payer. Donc l'idée, c'est effectivement de créer de l'immobilier autour pour financer ce golf. Alors c'est là que l'écologie refait surface. Il est prévu de créer un éco-hameau sur le modèle de celui qui a été créé par Pierre Rabhi et sa fille en Ardèche, hein, s'il vous plaît, hein, l'éco-hameau des Buis. C'est ce modèle-là qui a inspiré l'agglo alésienne, qui ne manque pas d'idées. Hein. Et donc, cet éco-hameau, en fait, ce serait, pour parler plus crûment, un village lotissement qui comprendrait quand même 108 villas et 255 logements en tout. Donc, ça fait un gros mot, on va dire, quoi, l'équivalent d'un village tel qu'il y en existe à côté. Et effectivement, il est prévu en plus de cet éco-hameau.
On n'a pas encore très bien compris en quoi il est éco, à part sa source d'inspiration.
Parce qu'il va produire de l'énergie renouvelable, et puis on va récupérer l'eau de pluie. En fait, c'est comique, non, ça me fait rire, c'est comique parce que lors de la première enquête publique, on avait fait, nous, une contre-proposition, on avait fait un contre-projet, l'association Saint-Hilaire Durable. Et notre contre-projet, justement, proposait la création d'un éco-hameau avec compost collectif, des maisons bioclimatiques qui seraient construites, voire en autoconstruction, etc., de l'habitat partagé. Voilà, on avait mis ça sur le papier. Et ils ont carrément recyclé les termes, quoi. Ils ont récupéré les termes. Donc maintenant, l'éco-hameau, il récupérera l'eau de pluie et il y aura quelques jardins et ce sera merveilleux.
On peut ajouter qu'il s'inscrira dans la nouvelle préoccupation locale qui est de valoriser la ressource bois. Alors c'est vrai que quand on lit ça, on peut être relativement serein, sauf quand on pense à la grande chaufferie de Gardanne qui va prendre le bois à 400 km alentour, dont les Cévennes où nous sommes. Et effectivement, on se demande comment cette valorisation du bois va se faire.
Ouais, alors bon, il faudra chauffer qu'en hiver déjà, hein, espérons. Alors, il faut reconnaître que la ville d'Alès utilise déjà le bois pour ses chaufferies, hein, donc c'est le bois cévenol qui est déjà utilisé. Et effectivement, nous sommes concernés, hein, la basse Cévenne est concernée par l'approvisionnement de la centrale de Gardanne. Hein, et donc on voit quand même, on voit déjà beaucoup de camions qui circulent, hein, sur notre nationale qui relie la Cévenne à Nîmes et au-delà. On voit beaucoup de camions qui descendent chargés de bois, mais qui alimentent aussi la papeterie de Tarascon.
Mais revenons à notre sujet qui est tellement plus joyeux. Le golf, le cheval, les seniors, l'éco-hameau. Il y a là tout un projet d'avenir pour la région. Rémi Coulet.
Oui, c'est effectivement ce que nous disent certaines mères, là, parce que nous sommes allés voir pour certaines mères pour attirer leur attention sur ce qui nous paraît être les problèmes que va poser ce projet. Et effectivement, le fait d'attirer du tourisme, du loisir, ça semble être un petit peu le Saint Graal, quoi, quelque part. On a l'impression que nos mères sont, indépendamment de tous les problèmes financiers, etc., que poserait la réalisation de ce complexe, on a l'impression que le tourisme reste quelque chose pour notre région comme qui ne peut pas être surpassé. On est vraiment dans une activité indispensable. Et d'ailleurs, un maire me l'a carrément dit, moi, vous savez. Du moment qu'on attire des gens plutôt fortunés, évidemment, hein, qui vont venir acheter du vin dans les caves coopératives du coin, etc., ben, j'ai rien à dire. Hein.
Et vous êtes sceptique?
On est très sceptique parce que ce complexe, à la fois d'habitat et de tourisme, le scepticisme vient du fait qu'il est pas du tout financé. Et qu'on va faire la poche des contribuables concrètement pour payer ce terrain de jeu à qui pourra en profiter.
Mais oui, mais la communauté de communes a produit un document financier qui montre qu'on arrive à l'équilibre relativement rapidement, tout de même. Donc même si l'argent sort, de l'argent va rentrer.
On a un superbe document qui tient sur quelques lignes là, hein,
Une demi-page.
ouais, voilà. Une demi-page pour nous présenter ce que l'agglo appelle un bilan financier. Ça devrait être, selon toute logique, un budget prévisionnel, mais bon, elle appelle ça un bilan financier au terme de 12 ans. Et donc, sur ce document, on a une colonne investissement pour 18 millions d'euros, en gros, et une colonne recette au terme de 12 ans. Donc l'agglo a pris un petit peu de la distance là pour calculer ses recettes parce que lors de la première enquête publique, elle s'était tellement bâclée qu'elle avait produit au dossier une estimation sur un an. Et elle avait calculé que le golf allait être rentable, hein, bénéficiaire de 350 000 euros dès la première année. Suite à ça, la commission d'enquête a refait les chiffres, refait les calculs. Elle a trouvé le même chiffre, voire un peu plus, de 370 000 euros, mais en négatif cette fois. Donc il y avait un déficit de 370 000 euros dès la première année, ça la foutait mal. Donc en plus qu'elle s'était renseignée auprès de la Fédération française de golf et tout, la commission d'enquête avait fait son boulot. Et
Et qu'est-ce qu'elle avait appris?
donc la Fédération française de golf a produit des chiffres, disons, de fréquentation estimés pour un nouveau golf et dans les conditions où l'on est, parce qu'on n'est quand même pas non plus une région à l'est, c'est un petit peu l'arrière-pays, c'est pas un petit peu, c'est l'arrière-pays. On n'est pas sur des lieux aussi huppés que la Côte d'Azur ou le Luberon, donc forcément, c'est pas un golf qui va immédiatement, ni peut-être jamais d'ailleurs, drainer les foules, hein, fût-elle fortunée. Donc avec les chiffres de fréquentation estimés par la Fédération française de golf, eh bien la commission d'enquête a refait ses comptes et c'est là qu'elle est arrivée à un déficit prévisible, parce qu'on imagine bien qu'une telle infrastructure ne peut pas être rentable du jour au lendemain. Donc un déficit prévisible de 370 000 euros au terme de la première année d'exploitation. Donc cette fois-ci, l'agglo, elle a pris de la longueur. Elle a estimé la rentabilité du golf à 12 ans et elle nous a fait deux belles colonnes, donc la colonne investissement et la colonne recette au terme de 12 ans. Alors, donc ça s'équilibre, c'est parfait au terme de 12 ans, mais malheureusement, elle a oublié la colonne frais d'exploitation. Il n'y a pas de. Elle a confondu les recettes et le bénéfice, en fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas les frais, il manque les frais d'entretien du golf, il manque les frais de personnel, il manque toutes les charges d'exploitation possibles. Donc au final, on se retrouve avec un bilan équilibré, mais un bilan qui n'a aucune validité, quoi, en fait, qui n'a aucune sincérité. C'est vraiment des chiffres bidons, on peut le dire.
En tout cas, il y a quelque chose, Rémi Coulet, qui est très rassurant au terme de tout ce que vous nous apprenez, c'est que ce fameux projet que vous avez décidé, avec une ironie déplacée, je le dirais, de rebaptiser ZAD Golfique, en fait, c'est un projet d'utilité publique.
Ah, l'agglo aimerait bien qu'il soit d'utilité publique, hein, parce que c'est pour ça qu'elle sollicite la déclaration d'utilité publique du préfet. Il est à noter que le premier projet n'a pas reçu, hein, la déclaration d'utilité publique, sans doute en raison de l'avis défavorable de la commission d'enquête. On peut se poser la question, pourquoi déclarer un golf d'utilité publique? Bon. Public, parce qu'il sera financé avec de l'argent public, oui, quelque part, ça colle. Le problème, c'est que si l'agglo n'obtient pas cette déclaration d'utilité publique, ce sésame préfectoral, elle ne pourra pas exproprier les récalcitrants. Parce qu'il y en a. Elle a acheté des terres à l'aglo, elle a acheté une centaine d'hectares au prix fort. Hein, elle a payé à peu près trois fois et demi le prix de la terre agricole, le prix moyen de la terre agricole de l'hectare dans la région. Et donc elle a récolté quand même, notamment auprès de parce que nous avons ici comme ailleurs le problème de la transmission de la terre, hein, lorsque les agriculteurs partent à la retraite. Et donc pour différentes raisons, plusieurs agriculteurs ou plusieurs propriétaires fonciers, car tous ne sont pas agriculteurs, ont vendu. Mais il y a des récalcitrants qui ne veulent pas vendre, qui ne vendront pas jusqu'au bout. Et donc, pour réaliser ce joujou, il faut pouvoir s'en débarrasser, il faut pouvoir les expatrier et prendre leur terre au prix où on a acheté celle des autres.
Finalement, qui a intérêt à ce golf et ce centre équestre ?
Le centre équestre, c'est une histoire récente, ça n'existait même pas au premier projet, ça a été à la première version, ça a été rajouté là, dans les derniers temps, ça a été même sur le document de présentation, ça a été gribouillé au crayon, là c'est un petit peu sorti au dernier moment du chapeau, mais il y a surtout intérêt... Disons, pour les golfeurs locaux qui en ont un peu assez, on les comprend, de se rendre à Nîmes-Vaquerolles pour aller pratiquer leur activité. Quoi. Donc il leur faut faire demi-heure, trois quarts d'heure de route depuis Saint-Hilaire. Et donc ça crée une gêne pour eux. Ils préféreraient avoir ça effectivement à leur porte. Quoi. Donc on comprend que pour des personnes qui pratiquent ce sport, ils en ont recensé 400 à peu près dans le bassin alésien, sur un bassin de population de 180 000 habitants. Je crois. Donc,
oui, pas uniquement sur Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Non. non, pas sur Saint-Hilaire-de-Brethmas, il n'y en a pas autant. Donc oui, alors la première enquête publique, on parlait de 400 golfeurs, environ les prévisions de rentabilité avaient été faites sur ce schéma-là. Et puis là, le chiffre a doublé, on parle de la fréquentation a doublé entre les deux tours. Là. Donc entre la première version et la seconde version, on parle maintenant de 800 à 1000 golfeurs qui seraient potentiellement disponibles pour prendre une carte. Et en fait, il faut remettre ça à l'échelle effectivement du bassin alésien qui compte pas loin de 200 000 personnes, quand même 200 000 habitants. Quoi. Donc on est vraiment dans la création d'un joujou de luxe. Hein.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Ça pourrait être un pique-nique avec des amis. On est... au cœur d'une belle forêt, au pied d'une cabane en palette qui s'appelle le Palette Palace. Il y a des oiseaux, une petite brise légère, il fait un temps de rêve. C'est presque les vacances d'ailleurs. Ça va bientôt commencer. Et puis les amis sont là. Il y a des amis de la région. La région, c'est les Chambarans. On est entre Valence, Grenoble, Vienne. Et puis d'autres amis sont venus de plus loin, du Jura, avec une petite bouteille dans la sacoche, pour partager, mais aussi pour discuter, parce que c'est deux belles régions qui sont un peu des marges de la France, et l'une et l'autre qui sont loin des grandes villes, loin des centres. C'est vraiment typiquement ces régions où on a envie de partir, justement, quand on est vacant, quand on est en vacances. Eh bien, dans ces deux régions se profilent des projets frères, des projets qui émanent de la même entreprise, Pierre et Vacances, des projets de Center Park. Alors, celui des Chambarans, Roibon, on en a entendu parler, ça fait des années maintenant qu'il existe, en tout cas sur le papier, qu'il suscite à la fois opposition farouche, mais également... enthousiasme massif d'une partie de la population. Il suffit d'arriver à Roibon et de voir sur la place centrale du village, là où se dresse la statue de la liberté, tous ces calicots aux fenêtres. Oui à Center Park, oui à l'avenir, oui au travail, oui à la liberté d'entreprendre. Et puis il y a ce même projet qui a démarré aussi, plus discrètement peut-être, mais parce qu'il est plus petit sans doute, dans le Jura. Alors est-ce que là aussi, Raphaël Deschamps, il y a cette coupure au sein de la société entre ceux qui veulent à tout prix voir venir ce Center Park de Pierre et Vacances et ceux qui s'y opposent ?
Disons qu'en tout cas, on n'est pas exactement au même moment à la fois du risque d'implantation, puisque pour nous c'est un risque, et ni de la lutte contre ce risque d'implantation. Donc on peut le dire peut-être de façon moins certaine, mais effectivement, certaines manifestations de coupures sont déjà là. Il y a des gens qui se sont regroupés en collectif, en association localement pour résister à l'implantation de ce Center Park. Et puis d'autres qui commencent à s'organiser pour dire qu'eux sont favorables aux logiques d'emploi, de développement local, d'intensification touristique. Donc je pense que c'est un peu comparable, même si nous, on a affaire, pour l'instant en tout cas, à un semi-center park, puisque par rapport à celui qui est prévu sur Roibon, dans le Jura, pour l'instant, Pierre et Vacances ne parle que d'un center park un petit peu light, avec 400 cottages, 400 petits cabanons touristiques, au lieu de 800, ce qui représente quand même une ville de 2000 habitants en plus. Et sachant par ailleurs qu'ils ne se refusent pas de doubler la capacité d'accueil dans la décennie qui vient. Donc on sait qu'a priori, ils n'ont pas l'intention d'insulter l'avenir. C'est-à-dire, une fois que le Center Park est là, rien n'oblige de l'agrandir et d'en faire un Roibon bis.
Qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi ces endroits, le Jura par exemple, Raphaël Deschamps?
C'est difficile à dire de façon certaine. On pense que ça peut correspondre à des zones. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils revendiquent l'attrait pour certaines zones qui sont déjà hors de zones naturelles protégées, pour ce qui est de chez nous, en dehors des périmètres Natura 2000, des SNIEF, en dehors de zones humides, en dehors de lieux dont ils savent maintenant, et suite à l'expérience notamment de Roibon ou de Sivens, que ça va être des zones à problème. Donc, ils vont aller dans des zones sur lesquelles les arguments, notamment environnementaux, vont moins porter. C'est aussi pour ça que nous, sans en faire abstraction, on ne passe pas notre temps à se focaliser là-dessus, mais sur les thématiques de l'incantation au développement, de l'injonction au travail, à l'emploi et aux logiques productivistes, etc.
Parce que de fait, qu'est-ce qu'on peut défendre dans un site qui n'est pas remarquable, d'après ce que vous nous dites? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on a envie de le défendre?
Alors, on peut avoir envie de le défendre. Henri dirait mieux que moi ce que étymologiquement veut dire les champs barrants, je crois.
Henri Morat?
Oui, enfin il y a une version étymologique hein, qui nous dit que les champs barrants viennent du patois qui voudrait dire champ bon à rien. Cette version est contestée aussi.
Hein. Alors moi, elle m'arrangeait dans le sens de ce qu'elle représente en réalité, en fait, même si étymologiquement c'est pas exactement très précis. Elle représente aussi pour nous, par exemple à Poligny, le fait qu'on se trouve sur la parcelle convoitée par Pierre et Vacances. On se trouve sur une forêt de production de résineux en monoculture et sur des logiques qui sont déjà des logiques de production industrielle et d'exploitation industrielle de la forêt. Donc en ça, on peut peut-être pas parler d'une zone à défendre dans ce qu'elle est déjà, mais peut-être d'une zone à réinvestir, récupérer autrement. Du coup, nous, localement, Center Parks nous dit beaucoup des logiques qui sont déjà à l'œuvre chez nous. Mais on ne pense pas être à l'état zéro d'un paradis perdu qu'il faudrait défendre avec un tourisme doux, tourisme vert, tous des termes qui sont récupérés justement par les développeurs et dont on sait assez ce qu'ils ont fait sur nos territoires. Et du coup, on ne défend pas la forêt de Brocéliande ou on n'est pas au pays des bisounours, on vit déjà, c'est logique, c'est juste que Center Park les intensifie. C'est en ça que nous, la lutte contre Center Park nous parle, même si on ne renie pas effectivement tous les caractères sociaux, environnementaux, des emplois précaires, des forêts, de la faune, de la flore qui sont en danger par ailleurs, évidemment.
Ou alors peut-être que tout simplement, il y aurait un moment où on dit ça suffit, un moment où même lorsque ces logiques sont déjà à l'œuvre, on refuse qu'elles deviennent une fatalité, on refuse qu'elles deviennent un destin obligatoire.
Oui, c'est ça. C'est en tout cas Ce qu'on essaie de dire, c'est-à-dire qu'on l'essaye, en fait, parce que je crois qu'on n'a pas de solution toute faite. Et c'est en ça que, par exemple, quand on s'était rencontré à Grenoble, nous, le collectif jurassien, on souhaitait dire que c'était une démarche à tâtons, mais qu'elle était ferme en même temps. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de résultats en vue, mais qu'il y avait des choses et des logiques avec lesquelles on voulait rompre. Et que, du coup, ça nous intéresse beaucoup d'être...
Sans savoir vers où aller.
On ne sait pas toujours vers quoi on veut aller, mais qui le sait en réalité ? A-t-on forcément l'obligation de savoir vers quoi on veut aller ? Ça, c'est des obligations qu'on nous impose en réalité. Et par exemple, nous, on n'est pas tellement d'accord avec la logique de contre-projet. La logique de contre-projet qui, dans toutes ces luttes, pas toujours, pas chez tout le monde, mais dans beaucoup de luttes, sont cette obligation pour les opposants, pour les habitants, de mettre en place un contre-projet face à un projet destructeur, c'est en réalité une prise d'otage dans laquelle on ne souhaite pas rentrer.
Vous ne voulez pas montrer patte blanche, vous ne voulez pas finalement montrer que vous êtes aussi capable que ceux d'en face de faire un beau projet bien technique et bien propre sur une zone.
Oui, parce qu'on estime, même si ça manque d'ambition, même si ce n'est pas reluisant, mais qui nous oblige à être ambitieux et reluisant ? C'est en réalité les logiques capitalistes, les logiques de mise en concurrence des territoires. Nous, on n'a rien demandé de tout ça en réalité. Moi, je ne demande pas à montrer que mon territoire est plus reluisant que celui des Chambarans ou de la forêt de Fontainebleau ou je ne sais où. En réalité, rien ne nous oblige à ça. Nous, on estime que nos vies, toutes modestes qu'elles sont suffisamment légitimes. Un paysan, il peut être suffisamment légitime sans autre forme de procès pour dire « je ne souhaite pas que l'endroit où je fais boire mes vaches soit squatté par un aquamundo avec de l'eau à 29 degrés toute l'année ». C'est une légitimité qui, même si elle n'est pas éclatante, en tout cas, nous paraît suffisante.
C'est intéressant ce que dit Raphaël Deschamps, Henri Mora. Il renvoie dos à dos les porteurs d'un projet comme celui de Pierre et Vacances et ceux qui feraient un contre-projet. Je me disais, l'avers et le revers d'une même médaille. Finalement, ces projets qui concernent les loisirs, et je mets des guillemets, bien entendu, c'est aussi l'avers et le revers de cette même médaille qui est celle d'un monde structuré, façonné par l'emploi, le travail salarié, les loisirs qui sont donnés à date et heure fixe et de l'extérieur.
Je voulais revenir sur ce que disait Raphaël quand vous lui avez demandé pourquoi ils ont choisi le Jura. Ou... Je voulais revenir parce qu'en fait, quand le projet a été proposé à Roibon, Pierre et Vacances mettaient en concurrence différents départements. C'est-à-dire qu'il a proposé au Jura, à la Drôme et à l'Isère de venir s'implanter chez eux. Et il proposait aux plus offrants de construire un nouveau Center Park. Donc ça, c'était il y a plus de 7 ans. L'implantation jusqu'à présent des Center Parks, c'est surtout fait au nord de la France. Et donc, Gérard Brémond, le président de Pierre et Vacances, a une volonté à développer la moitié sud, bon, jusqu'au Jura, quoi. Et donc, a demandé aux différents conseils généraux à l'époque les subventions maximum qu'ils pouvaient avoir à chaque département. Et André Valigny, qui était président de la région, l'a dit officiellement, si nous avons eu le projet de Center Park, c'est parce qu'on a mis la plus grosse somme sur la table. Il faut savoir qu'on parle d'environnement, on parle de tout ça, mais c'est pour la société Pierre et Vacances, ce ne sont que des arguments qui vont lui permettre de s'implanter, d'investir et de vendre ce projet-là, quoi. Il faut savoir qu'en 2007-2008, Gérard Brémond a dit « Aujourd'hui, 20% du territoire hexagonal accueille 80% des touristes, ce qui veut dire qu'il y a un or vert. L'intérieur du territoire offre des potentialités énormes. » Voilà le but de cette société. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du territoire pour se faire de l'argent. On est dans une société capitaliste et le but de la société capitaliste, c'est de faire de l'argent. Et pour reprendre un peu ce que disait Raphaël aussi, nous, en face, on aimerait que l'on sorte de l'économie, qu'on pense à autre chose que l'économie ne nous mène pas par le bout du nez.
C'est pour ça que vous ne voulez pas répondre à ma question sur l'emploi et les loisirs, pour ne surtout pas parler de l'économie, Henri Mora.
Non, mais les emplois, enfin bon, et parce que justement nous sommes dans une société qui est menée par le bout du nez par cette économie, et ben l'argument, le seul argument des Pro Center Park que l'on trouve dans la région des Chambarans, ce sont les 700 emplois qu'ils sont censés proposer. Voilà, enfin les emplois, alors il faut savoir ce que c'est comme emploi tout d'abord, hein, les conditions d'emploi sont terribles, hein, depuis 2007, c'est-à-dire depuis que le projet est proposé, hein, sur Roibon, je me suis intéressé à la question et on a pu suivre dans l'actualité qu'il y a eu 8 grèves dans les différents center parks existants. Ce sont des grèves non seulement pour des salaires assez bas, mais aussi sur des conditions notamment avec la hiérarchie, etc. Lorsque vous avez dans des center parks où on se met en grève parce qu'il y a des problèmes de relations avec la hiérarchie, c'est que les choses doivent être très lourdes. Voilà le genre d'emploi que va proposer Center Park.
Il me semble qu'il y a aussi un problème sur la réalité de ces emplois. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai lu, un bon nombre d'entre eux ne sont des emplois que pour 10 heures par semaine, et encore réparti sur 2 demi-journées. Donc ça rend ça difficilement compatible avec un autre emploi à mi-temps ailleurs. Et les emplois à temps complet, eux, ont des amplitudes horaires telles que ça interdit toute vie familiale ou sociale en dehors.
Oui, nous sommes dans le tourisme. Alors bon,
J'ai lu ça dans vos articles et vos ouvrages, Henri Mora.
Les conventions collectives les plus horribles, enfin si on peut encore parler de conventions collectives, puisqu'on essaie de les enlever de plus en plus, le tourisme sont les pires, hein, puisque on demande de travailler le week-end. D'ailleurs, enfin, la loi Macron va dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire en sorte que des territoires représentent des bassins touristiques pour justement justifier le fait que les gens travaillent le samedi et le dimanche. Donc effectivement, les emplois à temps plein sont des emplois où on est censé travailler les week-ends aussi. Et plus de la moitié, ou en tout cas la moitié, sont des emplois de femmes de ménage qui sont là pour nettoyer les bungalows une fois qu'ils sont libérés par les touristes, c'est-à-dire les lundis et les vendredis. Et les employés sont censés nettoyer pendant 9 heures ces deux jours-là.
On va presque trop vite là, en parlant déjà de la réalité de ces emplois, parce qu'on n'a pas encore décrit, pour ceux qui l'ignoreraient, ce que c'est que ces center parks. Alors, Raphaël Deschamps, vous nous disiez, notre forêt de résineux, elle n'est pas particulièrement extraordinaire. Il n'empêche, elle disparaîtrait, de même que disparaîtrait la forêt d'Avenières, le bois d'Avenières à Roibon, pour laisser place à quelque chose d'assez sidérant, en fait. Et je pense que c'est important de le décrire.
Alors, ça laisserait place, effectivement, à un centre, en fait, autour duquel bat le Center Park, un cœur, qui s'appelle l'Aquamundo. C'est en réalité un centre nautique, hein, même si on enveloppe tout ça de grands termes. Donc c'est un centre nautique chauffé à 29 degrés toute l'année, dans lequel on peut passer d'un endroit à un autre, fréquenter des magasins, dans un système protégé, à l'abri de tout ce que peut représenter la vie comme risque en règle générale.
Protégé par une bulle,
c'est pas rien en fait. C'est-à-dire que là, c'est pas juste pour jouer avec les mots. En fait, il s'agit de vivre dans une bulle.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond en plastique sur... Alors à Roibon, je sais que c'est 25 000 à 30 000 mètres carrés. Et sous cette coupole de plastique, il y a des magasins, des restaurants, des piscines. On circule, on vaque sans jamais respirer l'air du dehors.
Voilà, c'est en tout cas une possibilité qui est offerte. Et autour, dans la forêt, on dissémine un peu des hameaux. Et puis un secteur découverte, il y a un hameau, un secteur aventure. Il y a effectivement des magasins qui par ailleurs seront évidemment fidèles à l'image qu'on se fait de la culture locale, hein, mais sans toutefois prendre le risque d'une rencontre avec la culture locale. Il y aura une ferme, par exemple.
C'est-à-dire qu'on vendra des produits locaux, mais ce ne sera pas les locaux qui les vendront,
voilà,
c'est ça ?
Ils seront évidemment valorisés dans des endroits dont on sait qu'ils correspondront aux normes HQE, avec des LED, tout est recyclable, des magasins qui seront en bois, parce que c'est... Donc, plus environnement, on ne peut pas faire. Et pour autant, il s'agit bien d'un monde clos, d'un monde artificialisé. Il y aura une ferme dont on sait par ailleurs que c'est ces logiques-là qui vont valoriser le monde paysan que par ailleurs ils s'empressent de détruire. Ce qui est, selon nous, d'un cynisme absolu en fait. Et c'est aussi ça qu'on veut montrer en fait, avant toute chose de dire, mais on nous prend pour des benêts quoi. Donc ce Center Park, c'est aussi ça. C'est l'illusion de croire qu'on va vivre une aventure sans tous les paramètres de l'aventure, l'illusion qu'on va découvrir une région sans sortir de Center Park, même si là-dessus ils évoluent un peu, mais ils ne sont pas clairs, ils sentent bien qu'il y a une demande économique locale pour dire « attendez, il faut quand même en sortir un peu, nous, il faut que nos commerces... » Nous, on est d'accord de jouer le jeu, mais il faut que nos commerces en bénéficient, c'est en tout cas une partie de la demande locale prête à accepter Center Park. Donc, ils ont un petit peu revu leur discours là-dessus, hein, sachant que de plus en plus, ils disent qu'ils veulent inciter les gens qui viennent chez eux à sortir de Center Park.
Oui, Henri Mora.
Je voulais rajouter, c'était, il faut savoir que bon, un Center Park, c'est un centre commercial, et tout centre commercial ne crée pas plus d'emplois qu'il n'en détruit. Quand Carrefour se met à un endroit, on a beau pouvoir aller acheter ailleurs, les gens vont à Carrefour et détruisent les petits commerces. Donc, même si on a la possibilité de sortir, et c'est ce qu'ils essayent de mettre en avant, parce que ça a été... on l'a pointé du doigt, quoi, en disant « les gens ne sortent pas, ils vont consommer à l'intérieur, etc. » Mais même s'ils ont, on envisage une sortie, ce qui m'étonnerait, parce que les gens qui viennent sur place restent 3 jours ou 4 jours, ils vont payer 800 euros pour les 3 ou 4 jours. Ce n'est pas pour aller ailleurs, c'est pour aller dans l'Aquamundo. Et un point, c'est tout, quoi. Mais même s'ils vont à l'extérieur, il faut savoir que Center Park reste un centre commercial qui va détruire le petit commerce, comme les centres commerciaux ont détruit le petit commerce aussi.
Et puis que dire de ce que les gens qui vont venir dans ces Center Park viennent y chercher aussi?
Ça, c'est quelque chose qui résonne pour nous, cette interrogation. Alors, moi, j'ai pas de certitude sur ce que les gens viennent y chercher. Je suis pas les gens, je vais pas parler pour les gens. Simplement, on a quand même quelques idées de ce que Center Park veut leur faire croire qu'ils y trouveront. Et par exemple, c'est ce que je disais, cette histoire de... C'est un mirage, c'est l'illusion d'y rencontrer de l'authentique, puisque c'est une recherche classique à laquelle répond le tourisme de masse. C'est l'illusion d'y trouver donc de l'authentique, une ferme, des produits bio, des fromages. C'est l'illusion d'y trouver de l'aventure. On va sauter entre deux sapins au bout d'une corde en ayant l'impression de tutoyer les sommets. C'est l'illusion de faire des rencontres avec un paysan quand ce n'est en réalité, par exemple, qu'un intermittent du spectacle, payé au lance-pierre. C'est toute cette illusion-là qui, pour nous... Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui vont vivre cette illusion-là, c'est de dire qu'en réalité, c'est un mépris total pour les salariés qui gagnent 320 euros par mois pour aller récurer les WC et qui ne peuvent pas bosser par ailleurs parce que ça prend toute la semaine. Mais c'est d'un mépris total pour les gens à qui on fait croire qu'ils vivent là quelque chose d'authentique. Or, c'est une mascarade. En fait, ce mépris, c'est pour nous le mépris de la société marchandisée qui, au nom du fait qu'elle veut gagner 3 sous, est capable en fait, de tout.
Il y a aussi, dites-vous, Henri Mora, le rêve de renouer avec une vie de famille qu'on n'arrive plus à avoir.
Oui, c'était les plaquettes de Pierre à Vacances mettent en avant cette vision, c'est-à-dire que on invite les familles avec jeunes enfants à venir dans les sites de Center Park. On espère ainsi renouer avec la vie familiale que les gens à l'extérieur n'ont plus. Donc, ce que Pierre et Vacances essaye de vendre, c'est cette possibilité aux familles de jouer le rôle de famille. On a entendu des parents dire ben, « Nous, ici, c'est super, notre enfant peut aller acheter le pain sans problème, puisqu'il n'y a pas de véhicule. » Et donc, il y a cette vision sécuritaire et une volonté de renouer des liens avec les différents... parents et enfants qui se retrouvent dans ce lieu qu'ils vont partager. Voilà.
C'est vrai que c'est un peu le versant loisir d'une société sécuritaire, Raphaël Deschamps.
Alors sécuritaire au sens où effectivement bon on connaît assez les effets de la société sécuritaire aujourd'hui, mais parce qu'il est le plus visible de cette société, à savoir les forces de l'ordre, on sait sur des endroits dans lesquels on essaye de protéger des forêts, des lieux, qu'elle s'exprime comme ça, mais elle s'exprime aussi par sa capacité sans doute à nous canaliser dans des endroits plutôt que dans d'autres. Et quand je parlais d'illusion ou de mirage, je pense que la façon de faire pour nous emmener vers ces mirages, c'est une façon de faire qui nous permet par ailleurs de ne pas saisir d'autres chemins, qui serait de prendre conscience, effectivement, qu'on n'a pas d'autonomie dans le travail, de se révolter, c'est pas un gros mot, de se dire qu'on veut aller vers un autre sens dans ce qu'on vit tous les jours pour pas avoir à recharger les batteries. Parce que recharger les batteries, c'est un peu l'objectif de Center Park. Mais on recharge les batteries en vue de quoi? En vue de retourner au charbon. C'est ça la réalité.
Oui, oui. Mais je me disais aussi plus largement, en écoutant Henri Mora, que de fait, aujourd'hui, les enfants ne peuvent plus sortir et aller acheter le pain. De fait, la société dans laquelle les gens ont vie au quotidien est une société truffée de dangers, que ce soit les voitures, les agressions, enfin, je sais pas. Mais de fait, ce qu'on vient trouver là, c'est ce qui n'existe plus, ou en tout cas de moins en moins, dans la vie quotidienne.
Oui, c'est vrai. Certains disent même qu'il y a un caractère un peu hygiéniste à ça, quoi. C'est presque la vie sans ces caractères dérangeants, sales, salissants, risqués. Nous, c'est pas ce à quoi on aspire, en fait. Effectivement, c'est une société qui est encadrée. Et en ça, elle est sécuritaire. Et c'est un cadre qui nous va pas. C'est ce qu'on avait déjà évoqué. Quand on parle du périmètre de Center Park, c'est pas uniquement un périmètre géographique. C'est un périmètre aussi, je sais pas comment dire, peut-être pas mental, mais un peu quand même. En tout cas, un périmètre social, un périmètre dans lequel ben, on est, même sans flic, quand même canalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de barrage, on va le faire nous-mêmes. Et je pense qu'aller à Center Park, c'est rentrer dans cette acceptation qu'on va accepter les conditions dans lesquelles on vit et on travaille toute l'année pour pouvoir recharger les batteries. Et je pense que jamais un CRS n'obligera jamais personne à aller à Center Park. Pour autant, il y a quand même cette réalité-là. Quoi.
Henri Mora.
Oui, il y a quelque chose de révélateur dans cette forme de tourisme. C'est-à-dire que le tourisme était perçu jusqu'à présent de s'ouvrir, d'aller découvrir, alors qu'ici on est dans de l'enfermement. On est dans un besoin de s'extraire de la société, non pas de la découvrir et de la penser. Donc c'est révélateur, et ce n'est pas un jugement moral contre ceux qui viennent dans ces Center Park, mais c'est une réflexion qui nous permet de voir dans quel monde nous vivons.
Pour compléter ce que tu disais, Henri, ce qui nous paraît aussi visible de ça, c'est que en réalité, on nous fait gagner du temps. On n'a pas demandé grand-chose, mais cette organisation de Pierre et Vacances, de Center Park, c'est une organisation des loisirs et du tourisme qui fait aller les choses plus vite qu'elles ne devraient aller. Donc c'est aussi quelque chose qui est en lien avec la société productive.
Comment ça ?
Eh ben, par exemple, quand on parlait des activités tout à l'heure, il ne s'agit pas en réalité d'être autonome et de maîtriser une activité, ce qui pourrait se concevoir, dire ben, vous voulez découvrir une ferme jurassienne ? Ben, venez pendant les foins, c'est 3 semaines les foins. Et là, il s'agit d'aller découvrir 3 chèvres naines, c'est-à-dire de prendre des libertés avec la réalité et avec le temps. Et dire, par exemple, vous voulez faire de l'escalade, du rappel, des sauts, c'est donner l'illusion aux gens qu'ils ont fait cette activité. Donc en réalité, ils l'ont consommé, ils n'ont été autonomes en rien dans cette activité. Ils n'ont pas pris le risque de partir avec un ami qui peut-être ce jour-là n'était pas en forme pour aller marcher en montagne. C'est le risque que certains paramètres nous échappent. C'est prendre le temps d'apprendre aussi. C'est prendre le temps de se faire aider. Or là, c'est de l'accessible immédiatement. Et on le voit dans le loisir, on le voit aussi dans le travail. C'est-à-dire que maintenant, c'est d'un ringard absolu que de vouloir se former, de vouloir prendre le temps. Tout le monde est sur des logiques de compétences. Et là, ben voilà, on attache un mousqueton, on saute entre deux sapins. C'est la logique de compétences appliquée au loisir qu'on subit dans le boulot. C'est-à-dire que ça permet en plus de ne pas payer les gens. Le réel problème, c'est qu'en fait, on leur dénie le droit de faire les choses, non pas en se prenant au sérieux, mais avec sérieux. Et dans les vacances, ça continue.
Tout de même, je voudrais qu'on revienne à notre point de départ, parce que tout ce dont vous parlez, toutes ces formes de vie à côté de la vie, en dehors de la vie, qui permettent de la court-circuiter, la vie, en fait, ça s'inscrit, et ça s'inscrit très fortement dans les paysages. Alors, c'est vrai qu'on s'est presque, je dirais pas habitué ni résigné, mais on sait tous que les paysages ont été extrêmement saccagés, on va dire, par des besoins dits, enfin je mets besoin là aussi entre guillemets, de production. Aujourd'hui, le saccage se fait au nom du loisir, au nom du plaisir, au nom de la consommation. Est-ce que pour vous, il y a franchissement d'un seuil ? Est-ce que c'est simplement la continuité de cette même logique ? Comment est-ce que vous réagissez là ? J'ai évoqué tout à l'heure le palais de Palace, au pied duquel nous sommes. En fait, ici à Roibon, il y a une ZAD, une zone à défendre, qui résiste depuis maintenant plusieurs années et qui, on l'espère, va résister encore. Mais comment est-ce que vous voyez cette inscription dans les paysages ? Henri Morat ?
Oui, enfin moi je pense qu'il y a une certaine provocation, hein, puisque on vient construire une ville avec 1000 bungalows, c'est-à-dire 5000 personnes, à côté d'un village où il y a 1300 âmes, mais on ne l'a pas choisi n'importe où, on l'a choisi de le faire loin de toute urbanisation, dans une forêt, et même en tête de bassin versant, et sur une zone humide. Alors voilà, on va de plus en plus loin, effectivement. On répond à un besoin d'évasion en détruisant ce qui nous restait comme territoire pour nous évader. Donc, c'est une véritable provocation pour moi. Oui.
Et vous, Raphaël Deschamps ?
Disons que par rapport à cette problématique environnementale, effectivement, bon, selon les secteurs, c'est dans des endroits plus ou moins déjà fragiles ou sensibles. C'est pas le cas chez nous, mais pour autant, effectivement, il y a des problèmes en approvisionnement d'eau. Où là, ça c'est une thématique qui est large, et du coup, on se rend compte que les aberrations, elles sont là aussi, du point de vue de l'eau, et c'est un problème d'environnement, de nature. On va aller chercher l'eau à des dizaines de kilomètres. Pour pouvoir la retraiter, on ne sait encore pas trop comment, pour la rejeter dans la nature. Et puis, Center Park, Pierre et Vacances, ils ont un discours qui, selon nous, est assez habile, qui porte d'ailleurs, notamment auprès des élus, qui est de dire que, justement, ne se portent pas sur des territoires sensibles. Maintenant, ils ne font plus cette erreur-là qu'ils ont fait à Roibon. Par ailleurs, ils agrémentent ça d'un piège qui est maintenant classique, c'est celui du développement durable. Et ils n'ont évidemment pas oublié de se doter de directeurs et de structures internes liées au développement durable, qui ont évidemment, d'un point de vue technique, réponse à toutes les questions que le développement durable met sur la table, en évitant soigneusement d'en poser d'autres. Et du coup, étant irréprochables sur ces questions de développement durable, eux font mine de ne pas comprendre ce qu'on peut leur reprocher, quoi. Et c'est en ça que nous, on fait très attention à ne pas leur reprocher d'être en contradiction avec les logiques de développement durable. Pour nous, ils sont complètement dedans. Et c'est bien ça notre problème, c'est les logiques du capital.
Et l'adhésion de la population à ces Center Park, Henri Morat ?
Oui, ben effectivement, ils ont bien joué avec en présentant le problème économique comme seul problème à régler, quoi. C'est-à-dire que, surtout que Pierre et Vacances met en avant son côté environnementaliste, donc pour celui qui ne regardera pas de près, bah voilà, quoi, une société qui vient s'implanter, qui est environnementaliste, qui offre 700 emplois, pourquoi ne pas l'accepter ? Et oui, en période de crise, d'autant plus que tous les gens sont à l'affût de ce problème, tout le monde connaît autour de soi ces problèmes d'emploi, alors que bon, le problème environnemental paraît bien plus loin, quoi, reste moins direct à supporter.
Et donc par un tour de passe-passe, cette question de l'emploi, cette question économique, dont vous disiez, Raphaël Deschamps, que vous en aviez assez, qu'elle soit au cœur du problème, c'est elle qui remporte la mise.
C'est elle qui remporte la mise parce que aussi, il faut quand même dire les choses, elle est portée par des élus qui devancent l'appel du monde économique, ou en tout cas qui l'accompagnent sans beaucoup de questions, quoi. Ils sont moins regardants avec le monde économique qu'ils peuvent l'être avec...
Les constructeurs de cabanes ?
Par exemple, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est très concret. C'est-à-dire que nous, on a eu à faire une lutte contre les forages d'hydrocarbures sur le Haut-Jura, lutte au cours de laquelle on s'est bien aperçu qu'il y avait des PLU, des plans locaux d'urbanisme sur toutes les communes, qui pour beaucoup était d'une sévérité absolue avec des constructeurs de cabanes ou de yourtes, mais qui s'apercevaient, PLU, qu'ils n'avaient rien à dire à l'implantation de l'industrie du forage. Bon, ça doit quand même théoriquement un tout petit peu interroger la place des élus là-dedans. Et on voit une fois de plus sur Center Park, et là c'est caricaturé en Isère comme dans le Jura, que les élus sont le petit doigt sur la couture, droite et gauche confondues, pour mettre en avant le fait qu'on n'a pas les moyens de se permettre de refuser de l'emploi, quelle que soit sa nature, quel que soit son sens, quel que soit... Sachant quand même que c'est pas eux qui iront hein, sur ces emplois-là, ou alors il faudrait quand même leur demander de montrer l'exemple un an, ne serait-ce qu'un an, quoi. Dire, bah, écoutez, chiche, il y en a un qui est pour vous, quoi. Pendant un an, on est content de... Voilà. Sachant que, voilà, nous, c'est logique de l'emploi. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à des gens qui sont dans la précarité. Il ne faut pas se méprendre sur ce qu'on raconte. Voire même, nous, on le fait, quoi. Il y a des moments où on va faire des choses, peut-être, dans lesquelles on n'est pas à notre aise ou qu'on ne justifie pas par ailleurs. Simplement, on en a marre d'être scindé en deux par tout ça, quoi. On a envie d'avoir des vies qui correspondent un peu aussi à ce qu'on veut vivre, quoi.
Terminée, la saison de Terre à Terre également, nous nous retrouverons à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet où vous retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un certain nombre de liens. Notre numéro de téléphone, c'est encore le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Jean-Richard Dufour, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bon été à tous!